Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie, comme d'habitude, de Jean-Philippe. Mais comme vous pouvez remarquer, pour cet épisode-ci, Marie-Lou n'est pas présente avec moi. On a eu un horaire très chargé là, dans les dernières semaines. Et puis, ça concordait un peu moins. Donc, j'ai décidé que j'allais faire quand même le podcast, mais seul pour cet épisode-ci. On espère que ça va vous plaire quand même. Et Marie-Lou sera de retour là, pour le prochain épisode dans 2 semaines. Donc, au menu pour cet épisode-ci, un peu un varia, je pourrais dire. Là, je vais parler des nominations pour l'As d'Or 2017 qui a lieu à Cannes. Et aussi, je vais parler un peu de variantes solo. C'est de quoi que j'apprécie beaucoup dans les jeux de société. J'en joue beaucoup dernièrement. Et donc, je vais vous en parler un peu plus. Et un petit projet que j'ai en tête par rapport à ça. Donc, je vais vous en faire part là, dans l'émission. Mais avant de commencer l'épisode, là, je voulais parler de quelques nouvelles par rapport au monde des jeux de société, bien évidemment. Pour commencer, j'ai ici l'extension, en fait, je n'ai pas ici, mais je voulais parler de l'extension pour Quadopolis Public Services qui va ajouter au jeu des bâtiments de services publics comme station de police, station de pompiers, qui vont permettre de faire de nouveaux objectifs là, dans le jeu. Il n'y a pas énormément de détails encore qui sont sortis, puis je me souviens plus exactement à quel moment c'est supposé sortir en 2017, mais c'est prévu là, pour, comme je disais, pour l'année 2017. Donc ça va être à surveiller, là. Je pense que ça va être très intéressant. Un jeu Quadropolis qu'on apprécie beaucoup, que j'avais fait découvrir à mes parents, puis ils ont vraiment beaucoup apprécié ce petit jeu-là de placement de tuiles. On développe son quartier, puis la mécanique pour aller chercher les tuiles est vraiment très intéressante. Donc j'ai hâte de voir cette extension-là, qu'est-ce que ça va apporter au jeu, puis ça va donner sûrement des nouvelles possibilités vraiment intéressantes. Également, pour un autre jeu là, que j'apprécie beaucoup, il y a déjà une extension qui est sortie pour ce jeu-là, je ne l'ai pas encore achetée, là, c'est pour le jeu Sight, mais c'est prévu d'avoir une nouvelle extension encore en 2017. J'ai vu là, se passer sur quelques petits forums, sur Board Game Geek, et même Jimmy Stegmaier a confirmé lui-même qu'il y avait une extension qui était en préparation pour 2017, donc j'ai hâte de voir ça aussi, mais c'est sûr qu'avant on va devoir essayer la première extension là, de Sight, dont le nom m'échappe, mais qui ajoute deux nouvelles factions. Donc c'est sûr qu'on va l'acheter prochainement, je crois, parce que Sight est vraiment un coup de cœur pour moi pour 2017, vu que je l'ai eu justement à Noël dernièrement. Également, vous avez peut-être remarqué qu'il y a plusieurs pubs ludiques qui ont ouvert en 2017 au Québec. Donc, il y a 3 là, que j'ai notés. Peut-être que j'en oublie. Là, si jamais ça arrive, n'hésitez pas à nous écrire. Là, puis on va vous mentionner là, dans un prochain épisode. Donc, premièrement, il y a à Saint-Eustache, il y a le café La Triche qui a ouvert ses portes là, au début de l'année 2017. Ensuite, il y a les Détruqués qui viennent tout juste d'ouvrir là, à Shawinigan. Et finalement, il y a le Café Farfadet du Nord à Saint-Jérôme aussi qui a ouvert, je crois, à la mi-janvier 2017. Donc, 3 nouveaux pubs ludiques. Encore à chaque année, on a vraiment beaucoup de nouveaux pubs ludiques qui s'ajoutent. C'est vraiment le fun, puis ça rajoute des places dans des plus petites régions au Québec. Donc, ça, c'est vraiment très bien, puis ça va augmenter le nombre de joueurs. Donc, ça, c'est très bien. Peut-être le nombre d'auditeurs aussi pour nous également, là, n'hésitez pas à en parler à vos amis. On voit que le monde du jeu augmente vraiment beaucoup. Donc, si vous avez du monde qui sont intéressés par les podcasts, n'hésitez pas à parler de nous également. Ça fait toujours plaisir aussi quand vous nous écrivez de vous répondre et de faire cette émission-là pour vous. Donc, étant seul pour cet épisode-ci, j'ai l'impression que ça va être un peu plus rapide qu'à l'habitude, mais ça va sûrement revenir à la régulière là, dans le prochain épisode. Et là, bon, j'ai pas mal fait le tour là, des petites nouvelles que j'avais à vous parler, que je voulais un peu souligner pour cet épisode-ci. Je vais donc enchaîner avec les nominations pour l'As d'Or 2017, donc, qui ont lieu au Festival de jeux international de jeux de Cannes. Donc, il y a 3 grandes catégories, un peu là, comme pour le Spiel de Jarès à Essen, qui a lieu à chaque année aussi. C'est pas mal les mêmes catégories, là, grand public, là, tout public, expert et enfant. Donc, dans la catégorie tout public, On a le jeu Codenames qui, évidemment, était aussi en nomination là, pour grand public et a gagné justement au Spiel de Jarez l'année dernière. Donc, probablement qu'il va gagner aussi pour l'Asdor 2017. Mais il est quand même en compétition avec un petit jeu qu'on a découvert récemment, le jeu King Domino, qui est vraiment très bien, un beau petit placement de tuiles qui dure environ 15-20 minutes. Puis, il est vraiment très attrayant, très, très bien coloré avec ses tuiles plastifiées, reluisante qu'on pourrait dire. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce petit jeu-là. Puis je vais sûrement y mettre la main dessus lorsqu'il va revenir en magasin. Là, j'ai pas regardé récemment s'il était de retour, mais c'est vraiment un achat, je crois, futur pour le jeu King Domino de notre côté. Un autre jeu qui est en nomination aussi pour tout public, le jeu Imagine. C'est un jeu qu'on avait déjà vu passer. On n'a pas vraiment parlé ici là, parce que c'est pas un jeu qu'on avait décidé d'acheter, mais qui Marilou a trouvé quand même attrayant ce concept-là, qui est d'avoir des plastiques avec transparents qui ont des formes dessus et on doit faire deviner des mots avec en assemblant les plastiques ensemble pour faire des pseudo-animations ou des formes, etc. Donc, il y a un concept intéressant. Et finalement, la dernière nomination pour le grand public, l'Asdor grand public, on parle du jeu Unlock. Je vous dirais, quand j'ai vu la nomination, c'est pas un jeu qui m'éveillait quelque chose que j'avais vu passer, mais en allant voir sur Board Game Geek la définition du jeu, un peu qu'est-ce que représentait le jeu Unlock, je suis tombé sur le jeu qui. C'est un peu ce que j'avais en tête. C'est pour. Un peu simuler les escape rooms là, qui sont aussi en vigueur là, ces temps-ci, qui je dirais pas explosent, mais il y en a de plus en plus à travers le monde, là, des escape rooms où vous allez vous être embarré dans une pièce, parfois il y a plusieurs pièces, et vous allez devoir résoudre des énigmes, trouver des clés pour réussir à sortir de la pièce. Donc le concept du jeu Unlock, c'est un peu ce principe-là, de trouver des énigmes, justement, de résoudre des énigmes, de trouver des solutions à divers éléments pour réussir à trouver la solution finale et à sortir de la pièce. Le problème dans Unlock, c'est de finir la mission. Donc ça, ce sont les quatre jeux qui sont en nomination pour le prix tout public de l'Asdor 2017. Donc Codename, King Domino, Imagine et Unlock. Dans la catégorie expert, on retrouve trois jeux en nomination. Premièrement, on a le jeu Conan. Un jeu, je vous dirais, je ne suis pas allé dans le détail dans ce jeu-là, voir qu'est-ce que ça représentait. C'est pas vraiment un jeu qui m'attirait énormément. Il y a quand même eu beaucoup de hype autour de ce jeu-là en France surtout. Vu que ben, justement, c'est un jeu qui a été fait par des auteurs français, dont les noms m'échappent. Mais, et ça. Je crois que peut-être c'est une des raisons pourquoi il se retrouve là. C'est probablement un très bon jeu. Je pourrais pas dire que j'ai vu beaucoup de commentaires passer. Il y a un jeu qui a l'air super beau au niveau des miniatures, de la map du monde. Ça a l'air très, très, très intéressant quand même. Mais comme je disais, c'est pas un jeu qui m'attire nécessairement. Je trouve le prix quand même très cher. Pour un jeu de société, on parle de 140-150 $, je pense qu'ici. Ça m'attire moins d'aller vers ces prix-là pour acheter un jeu de société. J'essaie de rarement dépasser les 100 $, là. Donc, peut-être un peu moins pour moi, mais il est quand même en catégorie, dans la catégorie expert. Peut-être que ça peut me faire changer d'idée pour aller regarder un peu plus qu'est-ce qui se retrouve dans ce jeu-là. Donc, ça, c'est le jeu Conan qui est en domination. À côté, on retrouve le jeu Sight, qui est un jeu que j'apprécie beaucoup dans le moment, qui a eu lui aussi beaucoup de hype en 2016, à l'été 2016, lorsqu'il est arrivé aux supporters du Kickstarter. C'est un jeu de Jamie Stegmaier, qui nous a fait Viticulture, que beaucoup de gens apprécient, d'autres moins. Il y a un style, je dirais pas particulier, mais il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, comme beaucoup de jeux, c'est sûr que c'est rare de faire l'unanimité. Et finalement, le troisième dans la catégorie, c'est Star Realms. Star Realms qui suscitait un peu la controverse, pas la controverse, mais il y a un peu de discussion par rapport à comment ça que Sight et contre Star Rams, en fait, ou Star Rams et contre Sight et Conan, on s'entend que c'est pas le même niveau de jeu. Star Rams, pour y avoir joué, puis pour l'avoir dans notre collection, c'est plus un jeu, un petit jeu rapide, deck building, de combat, pur et simple. Et Sight, ben là, on a beaucoup plus de gestion. Quand même simple à comprendre aussi, mais est-ce que, je pense que la question à se poser, est-ce que Star Rams est grand public? Je ne crois pas non plus, vu que des fois la thématique juste espace peut déjà retirer beaucoup de monde. Donc, probablement que c'est pour ça qu'il se ramasse dans la catégorie expert. Et aussi, il faut savoir que Star Rams est sorti en 2016 en Europe en français. Donc, c'est pour ça que c'est considéré pour l'As d'Or 2017. Alors qu'ici, en Amérique du Nord, il est sorti déjà depuis quelques années. Donc, peut-être c'est pour ça aussi qu'on trouve un peu bizarre de l'avoir dans le jeu de l'année 2017. Mais ça n'enlève rien quand même à Star Rams, qui est un très bon jeu également. Mais je crois, j'ai l'impression que Side va gagner ce prix-là, le prix expert, j'espère. C'est sûr que j'ai jamais essayé Conan, fait que peut-être que Conan est meilleur aussi. Je n'en ai aucune idée à ce niveau-là. Et finalement, il y a la catégorie enfant. Là, je vais passer rapidement sur cette section-là. C'est pas des jeux qu'on joue. Il y a l'âge de Pierre Junior qui est en nomination, si je ne me trompe pas, aussi au Spiel de Jarès l'année dernière. Je me souviens plus s'il a gagné, mais l'âge de Pierre est un très bon jeu en soi. J'imagine que la version junior, là, je dirais que c'est le jeu enfant que je vois le plus passer là, sur les réseaux sociaux, que le monde en parle, que c'est vraiment bon pour des enfants en bas âge. Donc probablement qu'il va peut-être gagner aussi. Et il est en nomination contre deux jeux que j'ai jamais entendu parler, là, Animove et Kikou le Coucou. Je pourrais pas te donner plus de détails là, sur ces jeux-là. Quoique le dernier avec son nom, je trouve très, très comique, là, Kikou le Coucou. Donc ce sont les trois jeux en nomination pour la catégorie enfant. Et ce sont les nominations là, totales pour les Las d'Or 2017 du Festival international de Cannes. Qui va avoir lieu, là, je crois, dans les prochaines semaines. J'ai pas revérifié ça, là. Je sais que c'est en début d'année 2017, février ou mars. Mais je pense même que c'est à la fin février. Donc, ça va revérifier. Vous pourrez aller voir là, sur Internet le site du Festival international de Cannes 2017. Je vais maintenant parler d'un autre sujet là, que j'apprécie vraiment beaucoup. Et que, bon, je trouvais le temps idéal là, pour en parler, vu que justement je suis seul au micro pour cet épisode-ci. Je voulais parler des variantes solo dans les jeux de société. Et pourquoi je voulais parler de ça, c'est que j'en joue de plus en plus. En fait, là, depuis le début de l'année, j'ai décidé d'essayer, en tout cas, et je réussis jusqu'à maintenant de jouer un jeu au moins à chaque jour. Donc, ça arrive souvent que je vais jouer des variantes solo de jeux de société ou même le jeu Vendredi là, qui est un jeu solo uniquement. Et donc, parfois, c'est sûr que je joue aussi avec Marilou, mais pas nécessairement à tous les jours. Donc, je vais en parler un peu plus pour dans cette-ci un peu mes jeux préférés là, du moment en solo. Et aussi, je vais parler d'un petit projet là, que j'ai en tête. En fait, j'aimerais bien ça, je pense, faire une version, si vous vous souvenez, là, dans les épisodes précédents, en fait, j'avais fait deux épisodes express, dont un était par rapport à Android Netrunner, la variante solo, où j'avais expliqué les règles, les différences par rapport au jeu de base, et expliqué un peu mon appréciation personnelle. Je voudrais refaire un peu ce concept-là, mais en vidéo et en audio, en fait, les deux. Le mettre en podcast et le mettre aussi sur YouTube. C'est un projet que j'ai en tête, là. Je ne sais pas à quel moment je vais le réaliser. Vu, bon, ça prend quand même un peu de temps, mais j'aimerais bien ça le mettre en place. J'aimerais savoir votre avis si ça vous intéresserait, ce type de projet-là. Question de mettre un peu de pression là, pour le faire. Mais bon, je vais probablement le faire quand même, là. Peu importe, là, c'est vraiment moi pour le plaisir de parler des variantes solo de jeux de société, là, je trouve des fois, ben, il y a quand même de plus en plus de monde qui en parle, qui en joue. Donc, peut-être que je vais attirer un autre groupe de personnes qui va vouloir un peu en savoir plus sur les variantes solo de jeux de société. Donc ça, ce qu'il faut savoir dans les variantes solo, c'est qu'il y en a qui sont directement inclus là, dans le jeu en tant que tel, qui ont été faits par les auteurs. Des fois, sont bien faits, des fois, un peu moins. Je vous dirais, ce que j'apprécie moins dans les variantes solo, c'est lorsque c'est seulement le but, c'est de faire le plus de points possible et de se battre à chaque partie. Je trouve que le challenge n'est pas nécessairement là. On dirait que ça m'attire vraiment beaucoup moins. Je préfère les variantes solo où il y a une compétition avec un autre joueur fictif, un joueur artificiel, qui est contrôlé par nous, bien évidemment, mais selon certaines règles strictes. Et c'est certain là, que les jeux de Jamie Stegmeier, Viticulture et Sight, avec qui ont été en fait, il y a Automa Factory qui fait des variantes solo. Qui a fait des variantes solo pour ces deux jeux-là, et c'est vraiment un très beau concept où c'est des cartes qui ont des actions possibles et qui ont été très bien testées, et ça donne vraiment une variante solo, en fait des variantes solo qui sont très très intéressantes, et je vais vous en parler un petit peu plus tantôt. Il y a aussi, bien sûr, je pense que j'en avais déjà parlé là, sur BGG, il y a du monde qui vont tout simplement créer des variantes solo pour certains jeux. Parfois, il y en a qui sont très parfois, il y en a qui sont très bonnes. Parfois, il y en a peut-être moins intéressantes. Mais souvent, à date, ceux que j'ai essayés, je les ai bien appréciés. Je pense que le monde essaie justement de faire des variantes solo qui a un joueur artificiel. J'aime moins ceux-là où on doit brasser un dé. Je trouve des fois ça. Je sais pas, on dirait que ça m'attire moins. C'est souvent ce que les gens font parce que c'est la façon de déterminer le hasard. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien ceux de Automa Factory avec des cartes. On dirait, je sais pas, ça ajoute au jeu. Je trouve que ça. C'est pas juste lancer un dé pour le hasard. Donc, il y a plein de cartes qui ont été faites. Donc, il y a différentes. Il y a plus que 6 possibilités. Donc, c'est peut-être cet aspect-là, là, qui m'intéresse plus dans les variantes solo. Mais bon, en gros, c'est ce qui fait le tour pourquoi j'aime les variantes solo. Bon, mes préférés du moment, là, juste comme ça, là, pour peut-être ça va vous intéresser. Là, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou les poser là, en commentaire de l'épisode sur la page Facebook ou sur notre site web. Donc, premièrement, il y a celle de Baseball à Light 2045. J'en ai parlé, je pense, brièvement là, dans un récent podcast où il y a une variante en ligne qui a été mise justement par un utilisateur qui simule une saison complète. Là, je pense que vous allez jouer peut-être quinzaine, vingtaine de séries de 3 matchs, là. En fait, ouais, un peu moins que ça. Mais je pense que c'est une dizaine. Ouais, une dizaine de séries de 3 matchs. Et à la fin de la saison, il va y avoir des séries. Donc, il faut finir dans les 2 premiers sur 4 équipes pour réussir à faire les séries. Si vous gagnez contre l'équipe gagnante, ben, l'équipe première ou deuxième, là, vice-versa. Si vous gagnez la série 4 de 7, vous passez en grande finale contre une équipe générée là, par les meilleures cartes du paquet. Et d'ailleurs, j'ai pas réussi à me rendre jusque-là. J'ai réussi à faire une saison, mais je me suis seulement rendu en finale de championnat et j'ai perdu, là, je crois, 4-2 dans mon 4-7. Donc, mais j'avais vraiment beaucoup apprécié l'expérience que j'ai eue avec Baseball Highlight 2045, la variante solo en campagne. Bon, d'autres jeux que j'avais notés, bon, j'en ai parlé tantôt, Viticulture et Sight avec le Automa Factory. Les cartes Automa, je trouve vraiment c'est un concept vraiment génial que j'apprécie vraiment beaucoup. Il y a du challenge dans les cartes. Dans Viticulture, il y a une mode campagne où il y a 8 scénarios différents, en fait, de scénarios de départ qui vont influencer les choix qu'on va faire dans la partie. Et dans Sight, c'est en fait il y a 4 niveaux de difficulté. À battre. Donc, j'ai réussi à battre le premier niveau. Là, je vais m'attaquer au deuxième niveau prochainement. Ça, je trouve ça intéressant d'avoir un but atteindre, en fait, un joueur de plus en plus fort à battre. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Puis, ça me fait penser, pour Sight, il y a des joueurs qui le jouent aussi. Mettons, ils vont être deux joueurs humains et contre un autre joueur en plus virtuel. Donc, avec les cartes automa. Donc, ça fait une partie à trois joueurs, même si on est deux. Peut-être qu'on va l'essayer un jour. On vous en reparlera si ça arrive. Mais c'est quand même un... J'avoue que ça peut très bien se faire là, pour simuler un adversaire supplémentaire. Un autre jeu que j'apprécie beaucoup sa variante solo, même si je suis vraiment très très mauvais jusqu'à maintenant, c'est Lewis et Clark. On dirait que j'ai de la misère à ce jeu-là pour vraiment développer ma stratégie et puis réussir à avancer rapidement sur la piste. C'est vraiment très difficile pour moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai beau mettre l'intelligence artificielle au minimum, je sais pas, j'ai vraiment de la misère. Je finis peut-être 10-15 cases en arrière de lui là, sur une piste. Si vous avez jamais joué là, sur une piste qui a peut-être une quarantaine de cases. Et dans cette variante solo-là, l'intelligence artificielle avance d'une case à chaque fois, à chacun de nos tours. Donc ça nous donne peut-être une quarantaine de tours pour réussir à se rendre au point B sur la piste, au fort McMurray. Donc c'est ça le but du jeu en soi. Et j'ai vraiment de la misère à me rendre jusque-là. Je sais pas pourquoi. Mais c'est sûr que j'apprécie vraiment cette variante solo-là. Puis c'est sûr que je vais la rejouer là, prochainement. Aussi, une des préférées, en fait, j'ai acheté ce jeu-là pour ça. Et c'est sûr que je pense que j'en ai déjà parlé, évidemment. C'est le jeu Labyrinthe. Je l'avais même conseillé pour en donner un cadeau là, à un joueur qui aimait vraiment les jeux de société, qui était fan aussi de thématiques guerre et de jeux solo. Et Labyrinthe a vraiment, je vous dirais, c'est le jeu le plus complexe que j'ai eu à apprendre à faire gérer l'intelligence artificielle. Il y a vraiment une grosse charte de gestion, de compréhension. Qu'est-ce qui arrive selon quelle carte qui est tirée? Parce qu'il faut savoir que Labyrinthe, c'est un jeu card-driven games, qui est un jeu où les actions vont être dirigées par des cartes qui ont des événements ou des points dessus qu'on peut utiliser pour faire certaines actions. Et ce type de mécanique-là, on dirait, rend la chose un peu plus difficile pour bien comprendre la charte, une grosse charte qui est sur deux pages. Mais au bout d'une partie, on comprend bien une partie de 3 heures. On comprend bien comment gérer l'intelligence artificielle. Là, puis c'est vraiment très bien fait. Puis c'est vraiment difficile comme jeu. Et j'apprécie vraiment beaucoup. Là, ça, je trouve ça. C'est le fun d'avoir un jeu aussi complexe qu'on peut jouer en solo. Puis vraiment être dans la partie. Là. Donc, Labyrinthe, là, le nom complet, c'est The War on Terror. 2001 à point d'interrogation. Si jamais ça vous intéresse, c'est sûr que je vais vous en reparler là. Si j'ai réussi à lancer mon projet éventuellement là, ça va être un des jeux à l'honneur très prochainement. En fait, dans les premiers, c'est certain là. Le jeu Labyrinthe là, je vais rejouer, c'est sûr, très prochainement. Par contre, petit bémol, ça prend quand même 2-3 heures de temps libre là, pour y jouer, donc peut-être un peu plus long là, pour un soir de semaine par contre. Il y a aussi, bien sûr, les poilus. Les poilus qui, en fait, il faut avoir l'extension pour jouer à la variante solo. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. De plus en plus, à chaque fois que je la joue, je trouve qu'elle est bien faite. On va contrôler trois poilus et on a seulement une seule main de carte. Et on va tenter vraiment stratégiquement de disperser les. En fait, de soit placer une carte sur le champ de bataille. Ou à chacun de nos personnages des coups durs qui donc faut bien les disperser pour pas se nuire, utiliser les bonus de les porte-bonheur des personnages au bon moment. Donc il y a vraiment une stratégie de jouer avec les trois qui sont contrôlés par nous-mêmes. Vraiment très bien fait. J'ai réussi à gagner même récemment. J'étais très content d'avoir réussi là. Parce que les poilus, c'est un jeu qui est très difficile à remporter, je trouve. Et donc, l'extension, je l'ai acheté vraiment pour ça. Et même, je pense qu'on l'a joué seulement une fois là, avec les nouvelles règles qu'apporte l'extension et je l'ai joué plusieurs fois là, en solo, donc très content de mon achat pour ça. C'était vraiment mon but premier, c'était de jouer au Poilu en solo, un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup, très simple, beau graphisme, un peu différent à la française, un peu le cartoonesque français est un peu différent de ce qu'on est habitué de voir ici, puis c'est vraiment, ça fait changement. Puis je trouve même si c'est une thématique de guerre, c'est sûr que c'est pas le jeu le plus joyeux au monde comme thématique, mais je trouve il est vraiment efficace, puis vraiment très bien en solo. Donc je vous le conseille, là, si vous... C'est pas nécessairement très très cher comme jeu non plus, c'est sûr qu'il faut avoir l'extension en plus du jeu de base, si on veut jouer la variante solo. Ça aide peut-être un peu moins au niveau des prix, là. Ça va peut-être vous donner aux alentours de 40-50$, si je ne me trompe pas, là, pour avoir les deux, le jeu de base et l'extension. Et finalement, le jeu, je l'ai mentionné tantôt, vendredi, un jeu solo uniquement, avec la thématique de sauver Robinson Crusoe de l'île, le faire échapper de l'île. Vraiment très difficile comme jeu. J'ai battu le premier niveau et je suis passé tout de suite au niveau 2. Puis j'ai bien de la misère à me rendre très loin. J'ai même pas encore réussi à affronter les bateaux. Là, pour ceux qui connaissent le jeu, ça vous donne une petite idée. Là, je me suis rendu au maximum dans la zone rouge, on pourrait dire. Là, il y a trois zones. Il faut passer tous les défis verts, les défis jaunes, puis ensuite les défis rouges. Puis ensuite, on peut attaquer les bateaux. Puis ensuite, on peut réussir à quitter l'île si on a battu les deux bateaux. Donc, ça peut quand même être long. Ben, long. Peut-être un 30-40 minutes là, si on passe au complet. Mais généralement, les parties, lorsqu'on perd, ça dure peut-être 15-20 minutes. Des fois, on peut perdre très rapidement. Et c'est un beau jeu avec une mécanique de deck building, on peut dire, là, avec des cartes qui ont deux côtés, qui sont les combats, mais en même temps, lorsqu'on les bat, ils viennent dans notre paquet, donc on monte notre paquet de cette façon-là. La mécanique des. En fait, le design des cartes est vraiment très bien fait, puis c'est vraiment très, très bien pensé comme petit deck building. Puis aussi, plus on va vieillir, plus on va vider notre paquet, on va avoir des nouvelles cartes qui vont venir nous nuire dans le jeu. Donc il faut pas. Il y a une gestion de main à faire aussi en même temps, de gestion de paquet, de pas le vider trop vite, mais on peut aussi éliminer des cartes qui sont pas bonnes. Donc il y a vraiment une belle mécanique dans ce jeu-là, je pense. C'est pas pour rien qu'il se retrouve dans beaucoup de tops pour les jeux solo, là. Il était fait juste pour jouer en solo, puis il est très bien réussi en même temps. Donc ça fait le tour là, pour les variantes solo de jeu que je voulais vous parler dans cet épisode-ci. C'est sûr que j'ai mon projet, je vais vous en parler lorsque je vais le lancer. Vous allez le voir passer, c'est certain, sur les médias sociaux. Je ne sais pas quand encore. Est-ce que ça va voir vraiment le jour? Je l'espère. Je vais essayer de me trouver du temps pour le faire. C'est un projet qui me tient à cœur d'ajouter ça, d'ajouter ce contenu-là. Donc ça fait le tour pour le sujet principal de l'émission. Donc, si vous voulez nous rejoindre justement, si vous voulez vous donner des commentaires là, sur la première partie de l'émission, ou même sur le reste qui va s'en suivre, vous pouvez le faire sur notre site web à boardgamequebec.com, sur Facebook à Facebook BoardGameQuebec, sur Instagram à BoardGameQC, et aussi vous pouvez nous écouter là, de multiples façons. Là, je vais essayer de toutes les énumérer sur iTunes. Google Play Music, YouTube, qui a quelques épisodes de disponibles, plus les plus récents. Sur Stitcher, sur Google Play Music, je pense que je viens de le dire, sur Pod Québec, RZO et Balado Québec. Donc, ce sont toutes les façons que vous pouvez nous écouter. Et si jamais vous utilisez une autre plateforme de podcast, n'hésitez pas à nous le dire. On va se rajouter à celle-ci pour que vous puissiez nous écouter sur cette plateforme-là. Et finalement, bon, si vous voulez nous écrire en privé, là, vous pouvez soit le faire directement via Facebook, via les messages, ou tout simplement en allant dans la section Contactez-nous sur notre site web. Pour la section magasinage de cet épisode-ci, On a encore été très, très, très sage. On était vraiment très sage en janvier, en fait. Je pense que j'ai seulement acheté l'extension pour Codex vu que j'ai commencé à plus jouer à Codex. Et là, pour le magasinage, ben, en fait, on a reçu des jeux Kickstarter parce selon ce qu'on a supporté l'année dernière, ben, ça arrive un peu plus en batch là, en début de cette année. Donc, on a reçu Formidable, vous avez sûrement vu ça passer, et qui est le jeu de Maxime Tardif de Sphere Games, qui sont petite compagnie à Québec. Donc, c'est très le fun de recevoir leur jeu après tout le temps là, depuis l'année dernière là, qui sont là-dessus avec la campagne Kickstarter. Plus, il y a eu le développement juste avant, évidemment. Donc, c'était le fun de le recevoir. Je l'ai essayé en solo jusqu'à maintenant. Puis, on l'a pas encore essayé, moi et Marilou, ensemble. Mais on va sûrement l'essayer aussi prochainement. Là, j'ai mes parents qui vont venir nous visiter bientôt. Je pense qu'on va essayer de le sortir avec eux. Je pense que ça va être très bien, là, formidable. Je pense qu'ils vont apprécier avec les petites fourmis. Là, sont vraiment très belles dans le jeu. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un peu qu'est-ce qui se retrouve dans la boîte, j'ai fait une vidéo de déballage pour ça. Et pour le prochain aussi, là, qu'on a reçu, Beer Garden, qui effectivement une autre vidéo de déballage, qui est lui un plus petit jeu. Un jeu plus de placement de tuiles, en fait, placement de cartes, où on va créer notre propre jardin de bière, là, je sais pas comment appeler ça, notre Beer Garden. Et terrasse, on pourrait, ouais, je pense que c'est une terrasse. Et vous allez construire votre terrasse puis assembler les parasols ensemble. Ça va vous faire un objectif, va vous faire plus de points. En fait, c'est des tonneaux qu'il faut vendre. Et notre terrasse, on va dire, vaut un certain nombre de points. Et lorsque la terrasse d'un joueur vaut 15 points, ben la fin de partie s'enclenche et il reste un dernier tour pour que le monde essaie de battre justement les 15 points. Du joueur qui a réussi à le faire en premier. Vraiment un jeu qui dure peut-être 20-30 minutes maximum, gros gros maximum. Très bien fait, il est quand même assez portable aussi, qui peut se traîner un peu partout. Ils ont pensé à ça dans le design. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite pour ça, si ça vous intéresse. Je sais vraiment pas par contre si il va être disponible en magasin ici prochainement. C'est un créateur qui est aux États-Unis. C'est à surveiller, je vous dirais, là. On va vous en donner des détails si jamais on voit ça passer, qui se retrouve en magasin en ligne là, au Canada, dans les magasins là, au Québec aussi. Donc, on va vous tenir au courant pour ce jeu-là, Beer Garden. Et maintenant, pour les expériences de jeu. J'ai deux jeux à vous parler, deux jeux que j'ai quand même beaucoup joué. J'ai joué avec Mario des parties, j'ai joué aussi en solo à ces deux jeux-là, donc j'ai plusieurs expériences. Je peux un peu comparer selon le nombre de joueurs, c'est ce qui est quand même très bien. Donc le premier jeu, c'est Scythe. Bien évidemment, je l'ai annoncé tantôt que j'allais en parler. Donc Scythe, c'est un jeu qui est sorti en 2016. Et qui est pour 1 à 5 joueurs d'une durée de 90 à 115 minutes, qui est assez réel, là. Ça dure environ ça, maximum 2 heures. À date, à 2-3 joueurs, c'est vraiment le temps que ça a duré. C'est un jeu de Jamie Stegmaier, de la compagnie Stonemaier Games, qui a publié le jeu. Et bon, justement, pour faire une brève explication, là, je ne vais pas rentrer dans les détails du jeu. Mais en gros, dans le jeu, si vous voulez gagner la partie, vous allez devoir avoir le plus d'argent possible à la fin. Plusieurs façons d'y arriver. En fait, il y a des objectifs qu'on peut faire, maximum de 6. C'est aussi le déclencheur de fin de partie. Lorsqu'un joueur place sa sixième étoile, son sixième objectif, ça enclenche le dernier tour de. En fait, ça termine la partie automatiquement. Et le nombre d'étoiles qu'on a placées va être multiplié par une valeur en argent, dépendant de notre popularité qu'on va réussir à augmenter ou descendre, dépendant des actions, des choix qu'on fait dans la partie. Qu'est-ce qui va nous donner aussi de l'argent? C'est les territoires qu'on contrôle, parce que Scythe est un jeu aussi de contrôle de territoire. Et selon bon, le nombre qu'on contrôle, il y a un multiplicateur d'argent, effectivement, relié encore là à notre popularité. Donc plus on est populaire, plus on fait de points par territoire qu'on contrôle, qui est un facteur très important dans le jeu. Et on a aussi de l'argent pour les ressources qu'on contrôle. Donc, par deux ressources qu'on contrôle, on fait un certain nombre d'argent dépendant de notre popularité encore là. Dans le jeu, vous allez avoir vraiment plusieurs options. Vous allez toujours avoir le choix entre 4 ou 5 actions, en fait, mais en fait, vous allez toujours avoir le choix entre 3 ou 4 actions, dépendant si vous êtes allé dans la zone qui s'appelle la Factory, vous allez pouvoir rajouter une zone d'action à votre plateau de jeu, mais sinon, vous avez toujours les options disponibles sur votre plateau de jeu qui vont vous permettre de faire une action dans le haut de la case et par la suite de faire une action dans le bas de la case. Les actions dans le haut, c'est des déplacements, aller chercher des ressources, produire des ressources et gagner des points de combat parce qu'on peut se battre aussi dans le jeu site. Et les actions du bas vont être là pour upgrader je pourrais dire les vos des upgrades en fait à votre engin qu'on pourrait dire là, qui vont vous permettre de déplacer des cubes d'en haut vers le bas. Ça veut dire améliorer les actions du haut pour diminuer le coût des actions du bas. Vous allez pouvoir aussi enrôler des personnages dans l'armée, on pourrait dire, là, qui eux vont vous permettre de faire soit des points, soit gagner de la popularité, gagner des cartes de combat ou des points de combat si les autres joueurs jouent cette action-là. Donc, ça, c'est un concept intéressant, il faut surveiller, on dépend des autres joueurs. Vous allez aussi pouvoir déployer des mechs. Les mechs sont les personnages qui se combattent en plus de votre personnage, de votre caractère. Et aussi, vous allez pouvoir construire des bâtiments, des structures qui vont vous permettre de contrôler des territoires si vous êtes seul sur ce territoire-là et de faire aussi des actions spéciales comme faire des tunnels qui vous permettent de déplacer. Si vous faites la mine, ça vous permet de vous déplacer de cet endroit-là où elle est construite vers un autre des tunnels sur le terrain, parce qu'il y a des tunnels qui vous permettent de déplacer plus rapidement. Il y a un moulin qui vous permet de produire plus, produire sur la tuile. Donc, il y a également d'autres structures qui permettent d'avoir des bénéfices. Il y a aussi des objectifs reliés aux structures, dépendant où on les place. Il y a une carte qui va être révélée en début de partie. Des fois, c'est les placer à côté des lacs, les placer sur les tunnels, etc. Si vous arrivez à le faire, plus vous avez quatre structures maximales, mais si vous réussissez à le faire les quatre, ben, ça va vous donner peut-être de 4, 3, 4, 5, 6 dollars jusqu'à 10 dizaines de dollars, je pense. Donc, c'est des points aussi intéressants en fin de partie. Aussi sur le plateau, vous allez avoir des encounters qui vont vous permettre des fois de gagner des ressources, construire des bâtiments, etc. Des avantages que votre caractère va aller débloquer. Des fois aussi, il y a tout le temps trois options en fait. Il y a une option plus gentille qui donne un peu moins de bénéfices. Et il y a l'option méchante que vous allez perdre la popularité, mais vous allez avoir un gros bénéfice pour. Donc, c'est des options que vous allez avoir, des choix que vous allez avoir à faire dans la partie. Mais je dirais que la popularité, là, jusqu'à maintenant, je trouve qu'elle a un très grand rôle sur les points finaux. Donc, c'est pas nécessairement à négliger, mais il y a plusieurs stratégies possibles. Il y a plusieurs façons d'aller gagner la popularité aussi, qui peuvent être rapides ou plus ou moins rapides. Donc, c'est à penser. Dans notre stratégie, il faut vraiment. Je pense qu'on peut se développer un engin aussi dans le jeu qui va nous permettre d'être. Je dirais, c'est quand même mollo au début de la partie, mais ça se débloque rapidement. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui va faire tous ses objectifs très rapidement. Et la partie va se terminer, donc il faut, faut, faut. Comme je disais, il faut vraiment se bâtir, pas un mécanisme qui roule bien, qui ça permet de faire vraiment tous les objectifs qu'on veut plus rapidement à la fin, puis de devancer les autres joueurs, justement. Une chose intéressante. Ce n'est pas le joueur nécessairement qui termine avec ses six objectifs qui va remporter la partie parce que ben, ça dépend du multiplicateur qu'il a, ça dépend de l'argent qu'il avait déjà accumulé aussi au cours de la partie. Donc ça, c'est très important. C'est pas parce qu'on déclenche la fin de la partie que c'est nécessairement nous qui va gagner. Il faut un peu penser à son affaire et calculer avant de terminer la partie. Mais ça peut arriver aussi que ça arrive tout soudainement aussi qu'on complète un objectif. Donc, ça peut arriver sans le vouloir nécessairement, là. Peut-être Peut-être qu'on avait planifié que ça serait le tour d'après, qu'on aurait fait le temps de faire d'autres objectifs. Mais par contre, si quelqu'un fait une certaine action, puis ça nous fait avancer à quelque part, par exemple sur la piste de points, si on réussit à atteindre le dernier palier, en fait, sur la piste de points de combat, si on arrive sur le dernier palier, ça nous donne un objectif. Donc, dans ce cas-là, ben, ça ferait terminer la partie. Donc, il y a différentes façons comme ça qui peuvent nous prendre de cause si on avait mal planifié nos affaires. Mais ça rend le jeu quand même. C'est pas trop complexe, mais il faut penser quand même à nos affaires. Qu'est-ce qu'on enligne? C'est quoi notre stratégie? Parce que si on se dirige un peu dans toutes les options, c'est sûr qu'on ne remportera pas la partie. Donc, ça fait le tour un peu de l'explication du jeu en soi. Là, c'est vraiment. Comme je disais, ce qui est payant dans le jeu, c'est de faire des objectifs, contrôler des territoires, contrôler des ressources et un peu des petits points bonus, puis placer nos structures aux bons endroits pour faire des points à la fin. Et surtout la popularité qui va être notre multiplicateur qui est très très important. Là. Jusqu'à maintenant, je pense que c'est ce que je trouve. C'est pas très rentable d'être bas dans notre popularité là, en fin de partie. En fait, c'est quasiment impossible qu'on réussisse à gagner. Si jamais vous avez eu des expériences où c'est le joueur qui était à 2-3 de popularité, puis c'est lui qui a gagné parce qu'il a réussi à terminer très rapidement, peut-être, puis que tous les autres joueurs avaient 2 objectifs, puis il y en avait 6, peut-être que dans ce cas-là, puis il avait réussi à contrôler beaucoup de territoire, peut-être. J'aimerais ça savoir. C'est sûr qu'on a joué peut-être 2-3 parties jusqu'à maintenant. Moi, 4. Moi, j'en ai joué 2 en solo, 1 à 2, puis 1 à 3. Et je vous dirais que la popularité était un facteur très, très important dans la victoire du joueur qui a gagné. Donc, pour côté de mon appréciation, comme j'ai mentionné, c'est un de mes coups de cœur du moment. J'apprécie vraiment le jeu dans son ensemble, la mécanique de se développer. Le jeu démarre très tranquillement. On fait nos petites actions. On construit notre engin, comme on pourrait dire, notre engine, notre moteur qui va faire rouler notre moteur. En fait, il va faire rouler nos affaires, puis que justement, au fil de la partie, bon, on va être capable de faire beaucoup plus de choses dans une action. On va débloquer nos actions du bas. Donc, lorsqu'on va jouer une action, on va être capable de faire l'action du haut, l'action du bas. Donc, ça va nous donner un avantage. Puis, si on est capable de tout le temps combiner ça, de tout le temps profiter du plein potentiel de nos actions. Bien, ça va vraiment être avantageux pour nous, puis ça va probablement nous aider à gagner le jeu. Donc, cette mécanique-là d'avoir l'action du haut, l'action du bas, c'est vraiment. J'apprécie vraiment ça. J'apprécie aussi l'aspect contrôle de territoire. C'est pas de quoi qu'on a beaucoup dans les jeux, on a quand même quelques-uns, et c'est de quoi que j'apprécie bien. On a ça dans Runoir qu'il faut contrôler des territoires, et il y a aussi des tuiles dans ce jeu-là qu'il faut. Des runes qu'il faut posséder. Donc, il y a cet aspect-là de combat. Dans Sight, le combat est présent, mais c'est pas. Faut pas vous acheter Sight en pensant que ça va être un wargame. Vous allez être déçu. Il y a quelques combats. Les combats sont à l'enchère. C'est plus des combats stratégiques, je pourrais dire. Parce que si vous avez comme objectif de faire le plus. Ben, en fait, vous rendre à 16 points de combat, ben, si quelqu'un vous attaque, vous allez tout simplement dépenser 0 combat. Et vous perdrez pas de points de combat justement si votre objectif c'est de vous rendre à 16. Donc il y a un aspect stratégique au combat lorsqu'on décide. C'est sûr, c'est à l'aveugle. Fait qu'on, il y a un peu d'enchères, il y a un peu de bluff dans ça. Il y en a qui apprécient pas vraiment ça parce que justement, c'est de l'enchère. C'est pas souvent dans les wargames, ça va être soit des dés, selon le nombre d'armées que tu as, ça t'avantage beaucoup plus. Dans Sight, ça t'avantage d'avoir plus d'armées, tu peux jouer des cartes, mais c'est pas le gros point du jeu, là. Faut pas l'acheter vraiment pour les combats, faut l'acheter, je pense, pour l'aspect, oui, il y a un aspect contrôle de territoire, on se pile quand même sur les pieds, là, je vous dirais. Déjà, à 3 joueurs, on voyait la différence. Marilou était proche de moi, j'avais la faction des Bleus du Nord qui eux, peuvent seulement se sortir à un endroit de leur île. Par contre, si tu débloques les mecs qui, eux, donnent des pouvoirs spéciaux de déplacement, ben, tu es capable de sortir à plusieurs endroits. mais je l'ai pas fait assez rapidement, donc ça me bloquait un peu. J'entrais souvent en conflit avec Marilou, puis ça m'aidait pas. J'étais pas en avantage sur son terrain. Donc ça, c'est un aspect intéressant. L'aspect intéressant, justement, j'adore que chacune des factions, des unités, bon, un hometown différent sur la map et qui ont aussi des habiletés spéciales. Pas trop. Je pense pas que c'est déséquilibré. Faut jouer avec ça. Je pense qu'il faut les maîtriser. En fait, à chaque partie qu'on va jouer avec eux, on va savoir un peu plus comment les jouer, comment les comprendre. Donc ça fait une force au jeu parce que ça rajoute un aspect rejouabilité qui est vraiment très intéressant. J'adore tout le graphisme. Je me répète à ce niveau-là, mais c'est tellement très beau la map du monde, du territoire, la thématique un peu post-guerre avec des futuristes. C'est un drôle d'univers, vraiment intéressant. Puis ça fait penser, je pense qu'il y a un jeu vidéo qui va sortir avec cette thématique-là. Il y a eu des peintures aussi. Donc c'est quand même très cool là, comme univers un peu spécial, mais on rentre dedans. Je trouve que c'est très immersif. La thématique, je trouve, moi, vient me chercher une thématique guerre un peu, post-guerre. Si vous écoutez le podcast, vous savez que j'aime bien les jeux de guerre, mais ça, que ça n'en est pas un. Là, si vous appréciez les wargames, ça n'en est pas un. Mais moi, je l'apprécie quand même ce jeu-là pour tout ce que je viens de mentionner, le contrôle de territoire, la façon de faire des points avec la popularité, les multiplicateurs. Je trouve que c'est un très bon concept en général. Il joue très bien aussi en solo avec le Automa, j'en ai parlé tantôt aussi. Donc pour tous ces facteurs-là, c'est sûr que le hype qu'il y a eu, peut-être que ça m'influence un peu, mais j'ai pas été déçu par le jeu. Et jusqu'à maintenant, j'ai vraiment le goût d'y rejouer tout le temps. Puis je peux justement, grâce à une version solo, donc c'est très apprécié. Donc ça fait pas mal le tour là, de mon appréciation. Aussi, les miniatures sont très bien faites, les figurines. Petit point intéressant aussi, tous les workers, il y a des travailleurs dans ce jeu-là qui vous permettent de produire des ressources. Ils sont différents aussi pour chacune des factions, c'est pas juste des petits meeples. Tout pareil, ils ont pensé à ça. Ils ont aussi passé à un détail très intéressant, il y a des figurines en plastique qui sont les mecs et notre caractère. Ça, c'est les figurines qui peuvent se battre. Et nos travailleurs ne peuvent pas se battre, donc ils sont en bois. Donc ils ont pensé à ça de dire, en plastique, ça peut se battre. En bois, ça peut pas se battre. Donc ça facilite l'assimilation des règles. Donc il y a sûrement d'autres points là, qui m'échappent. Mais en gros, là, j'aime vraiment le jeu 7 jusqu'à maintenant. Très hâte d'y rejouer, de vous en parler aussi davantage de sa variante solo, là. Bien évidemment, et aussi de jouer, je crois, lorsqu'on va avoir la chance de jouer à 4, 5, genre de voir je pense que la map va vraiment pas se rapetisser, mais on va sentir que là on se pile vraiment sur les pieds. Donc, bien hâte pour ça, là, pour le jeu 7. Un beau coup de cœur du moment pour moi. Et le deuxième jeu que je voulais parler, c'est le jeu Fuse. Le jeu Fuse qui est un jeu en temps réel. Qui est pour 1 à 5 joueurs, qui est sorti en 2015, qui est d'une durée, c'est ça, en temps réel, de 10 minutes. Donc, si vous cherchez un bon petit jeu solo, vous voulez jouer une partie par jour, c'est un très bon jeu pour ça. Vous savez que ça va prendre 10 minutes, mais ça va vous vider d'énergie par contre. Comme on sait, les jeux en temps réel, là, si vous avez déjà joué aussi à Escape, ça draine du jus, on est dedans pendant 10 minutes, faut être attentif. Mais très bon jeu, Fuse. Donc pour l'expliquer rapidement, Fuse en fait, c'est un jeu où vous allez désamorcer des bombes. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, dépendant du nombre de joueurs, dépendant du niveau de difficulté que vous allez jouer. Vous allez placer un nombre de bombes à désamorcer différents dans la pile. Et aussi dans cette pile-là de 4, il va y avoir des bombes qui vont vous affecter votre jeu en fait en cours de partie, qui vont vous donner des désavantages bien évidemment. En gros, le jeu, vous allez lancer un nombre de dés dépendant du nombre de joueurs et chacun va prendre un dé et va le placer sur sa carte, sur ses cartes devant lui, chacun des joueurs. deux cartes et dépendant du nombre de joueurs, des fois il y a quatre cartes là, si vous êtes deux joueurs. Et sinon à un, je crois que c'est trois cartes. Des petits détails. Et vous allez placer un des dés sur votre carte. Et lorsque vous avez complété les conditions de la carte, ben, vous allez pouvoir défausser cette carte-là et en prendre une nouvelle. Et le but est de désamorcer toutes les bombes en dedans de 10 minutes. Ça a l'air simple comme ça, mais ça ne l'est pas, puisque par exemple, s'il y a un des dés qu'on n'est pas capable de placer, il faut le relancer. On doit retirer de nos cartes déjà en cours un dé de la même couleur ou un dé avec le même chiffre. J'ai oublié de mentionner d'ailleurs qu'il y a 5 couleurs de dés qui ajoutent des contraintes additionnelles effectivement dans le jeu sur le positionnement. Des fois, il y a des cartes qui vont nous demander une couleur spécifique de dés. Un chiffre spécifique, des combinaisons, faut faire des tours. Si on accroche les tours de dés, on perd tous ces dés-là. En tout cas, il y a plusieurs façons différentes là, d'être contraint par le jeu. Et en plus, il y a le facteur temps. Donc, tout ça fait en sorte que ça, c'est très difficile comme jeu, mais quand même très simple à comprendre. Puis l'iconographie est quand même. Très bien fait, là. On n'a pas besoin de se référer aux règles, ce qui est très bien parce qu'en 10 minutes, on n'a pas le temps d'aller voir, bien évidemment. Si vous voulez savoir un peu plus de détails là, sur ce jeu-là, il y a Professeur Board Game qui a fait justement une vidéo là, d'explication des règles. Ça va vous donner un meilleur aperçu, probablement visuel, là, que je ne peux pas reproduire dans le podcast. J'invite à aller voir ça, là. Je vais mettre le lien là, sur la page de l'épisode vers. Sa vidéo d'explication des règles. Et c'est d'ailleurs pas mal grâce à lui, je dirais, qu'on a acheté le jeu, là. Ça m'a vendu là, son petit vidéo. Je trouvais que ça avait l'air un jeu très intéressant pour jouer là, durant le temps des fêtes en famille, puis on l'avait d'ailleurs fait. Donc, Fuse, pour mon appréciation, comme je disais, c'est très le fun, 10 minutes. Vous savez que ça va prendre 10 minutes, mais faut savoir que ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Vous pouvez enchaîner 2-3 parties, mais après 2-3 parties, là, je dirais, on a un peu le cerveau en compote, on ne sait plus trop. Ben, en même temps, ça prend de l'énergie, mais ça peut booster aussi. Là, ça dépend des effets, ça dépend de si vous êtes fatigué avant de jouer ou pas. Mais, en tout cas, pour moi, ça me vide plus mon énergie que d'autres choses. Mais je trouve quand même très le fun. J'adore ce petit jeu-là. Il y a aussi la petite application qui est facilement téléchargeable sur iPhone, probablement sur Android aussi, qui met vraiment dans le jeu avec la petite madame qui nous dit à chaque minute qu'il nous reste, il vous reste 4 minutes, il vous reste 3 minutes. Puis là, il y a un petit son stressant pour ajouter en plus au jeu. Aussi, petit bémol, je dirais, ben, en fait, pas bémol, en fait, ils ont fait des dés promo lorsqu'on l'a acheté à l'imaginaire. Ils nous ont donné les dés promo avec, ils sont translucides, ils sont vraiment beaux. Si on les mélange avec les autres dés, ça vient mêlant plus que d'autres choses. On n'est plus sûr que ça, c'est un dé bleu, parce que là, il est translucide, il ressemble, on dirait que avec l'aspect temps, ça rend un peu tout compliqué. Peut-être que ça peut te projeter un peu de difficulté, vous mettez ces dés-là en plus, puis ça vient tout vous mêler, là. Mais je pense qu'au début, ça vaut mieux. C'est plus facile de jouer avec les dés qui sont toutes pareilles, là. Je pense que c'est plus facile à repérer rapidement, vu qu'il faut se communiquer assez rapidement qu'est-ce qu'on doit prendre. C'est ce qui fait le fun aussi du jeu, de justement devoir à se communiquer rapidement. Bon, moi j'ai besoin du dé rouge. Est-ce que quelqu'un a besoin du dé rouge? Non, ok, je peux le prendre. Puis des fois, ça vient un peu. C'est pas chaotique, mais il faut bien s'entendre. Ça peut être un bon jeu pour développer l'esprit d'équipe. Je dis ça en passant. Des fois, si vous cherchez des petits jeux au travail ou je sais pas trop pour développer un peu d'esprit cohésion, communication, je pense que c'est un très bon jeu pour ça. Aussi, ben, il joue en solo. En solo très bien. Moi j'ai vraiment apprécié. On a trois cartes justement devant nous. Puis faut c'est la même mécanique, c'est juste que là on n'a pas l'aspect de communication, bien évidemment, vu qu'on est juste deux, vu qu'on est tout seul. Mais il faut quand même bien penser à notre affaire, quelle idée qu'on a besoin. Puis ça arrive souvent qu'on n'est pas capable de prendre des dés. Donc moi, je l'ai trouvé très difficile aussi, mais très le fun également. Les cartes sont très bien faites, là. Ils se manipulent bien. Je ne sais pas s'ils vont durer très longtemps. Ils sont quand même de bonne qualité. J'ai hâte de voir, là, parce que c'est un jeu d'un fois, vu que justement, on va rapidement, donc on est moins délicat avec les cartes. Mais il semble assez de bonne qualité pour résister à plusieurs parties, on l'espère, bien sûr, à ce niveau-là. Et finalement, bon, globalement, je vous recommande quand même, là, si vous cherchez un jeu justement en temps réel, qui mette d'ambiance, qui. Je pense un très bon achat, pas très cher, je pense une vingtaine de dollars, si je ne me trompe pas, 20-25. Dollars, vous n'avez pour votre argent, puis vous pouvez le ressortir souvent. Je pense pas que c'est perdu, puis donc allez-y sans hésiter. Là, je pense pour Fuse, un petit jeu temps réel de désamorçage de bombes. Je vais terminer l'épisode avec un projet québécois, comme d'habitude, bien évidemment. Vous savez qu'on aime ça, supporter, encourager les projets québécois. Et pour cet épisode-ci, je veux parler du jeu Dark Mage avec l'extension, en fait, l'update de Arcane Order qui est disponible sur Kickstarter présentement, en fait, qui est en campagne de sociofinancement. C'est un jeu Dark Mage qui est par deux auteurs de Québec. En fait, Dark Mage est un jeu où vous allez avoir un héros, puis vous allez avoir des magies, en fait, puis vous allez attaquer votre adversaire. Donc le but, c'est de rendre tous les autres joueurs à 0 point de vie et d'être le dernier survivant. Un petit jeu inspiré, je pense, des jeux Dungeons and Dragons, où ce que vous allez des jeux de rôle, en fait, mais qui sous forme de cartes, vous allez juste basher, en fait, attaquer les autres joueurs jusqu'à temps que tout le monde meure. Il y a aussi des fois des monstres qui arrivent, puis là, ils attaquent tout le monde. Donc, thématique très intéressante. Petit jeu très, très le fun, là. Il y a quand même beaucoup de chance dans ce jeu-là. Mais je crois que justement, l'amélioration, en fait, l'update qu'on fait va enlever un peu cette partie-là, faire réduire la chance. J'ai vu quelques améliorations, en fait, quelques ajouts. Il ajoute aussi des nouvelles magies. Justement, je parlais qu'on peut faire des magies pour attaquer les adversaires. C'est un jeu aussi qui joue avec des dés, là, des 10, des 20. Donc, si vous aimez ça, brasser des dés pour faire des attaques, vraiment très le fun. C'est un jeu plus pour vous. Il y a aussi dans cette update-là, il ajoute des cartes d'habilité spéciales pour les héros. Ça, c'est une des recommandations, je pense, que des supporters qui avaient fait là, pour le premier jeu, que ça aurait été le fun d'avoir des capacités spéciales sur un héros. Donc, c'est ce qu'ils ont rajouté. Ils ont modifié un peu le design des cartes, rendu un peu plus lisible le héros, c'est quoi son point de vie, c'est quoi sa défense de base. Dans le jeu, vous pouvez aussi attacher à votre héros des objets magiques qui améliorent votre personnage. Vous pouvez aussi ajouter un compagnon, là, un animal qui va soit vous défendre ou attaquer lui aussi. Il y a différents aspects très intéressants dans ce jeu-là. Assez relativement rapide, là, moins d'une heure. Et ils ont aussi modifié, là, si vous avez déjà joué au jeu, là, les gros ennemis, justement, que je disais qui attaquaient tout le monde. En fait, ce qu'ils ont changé, c'est que ce personnage-là reste en place tant que tout le monde l'a pas. En fait, tant qu'il n'a pas été battu, fait que tout le monde doit l'attaquer avant de pouvoir réattaquer les autres. Donc, ça va changer un peu la dynamique du jeu, je crois. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va apporter de différent. Donc, ça fait pas mal le tour, là, de Dark Mage de Arcane Order. Je vous invite à aller le supporter. Il a déjà atteint son objectif, ce qui est très bien. Je pense dans les 24 heures, il a réussi à l'atteindre. Il est maintenant rendu à près de 15 000 $ au moment où je vous parle, sur un objectif de 10 000. Et il y a des stretch goals qui vont commencer à partir de 15 000 $. Donc, je vous invite à aller voir ça sur Kickstarter. Je vais mettre le lien. Donc, Dark Mage de Arcane Order. Donc sur ça, je vais conclure l'épisode, ce 16e épisode. Merci encore une fois de m'avoir écouté pour cette fois-ci, même si j'étais seul. J'aimerais bien savoir vos commentaires là, sur cet épisode-ci. Comment vous avez apprécié ça, que je sois seul au micro. Dites-moi les commentaires, j'aimerais ça m'améliorer aussi. Je sais que j'ai moins, c'est plus difficile pour moi d'avoir. J'aime ça avoir l'interaction avec Marie-Lou dans les podcasts, donc ce serait très bien que vous puissiez commenter là-dessus. Et encore une fois, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous dis au prochain épisode. Bye bye!